Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture. Nouvelle série cette semaine consacrée à la crise sanitaire encore et à ce qu'elle a changé dans notre rapport à la nature, à ce qui pourrait d'ailleurs encore changer pour s'adapter à ce monde post-Covid. On parlera de notre dépendance au pétrole et aux énergies fossiles, on se demandera si on en a fini avec le règne des villes, nous regarderons comment repenser notre rapport au monde du vivant. Mais pour commencer, penchons-nous sur l'enjeu de la relance qui doit se faire en gardant quand même à l'esprit les impératifs écologiques. La couleur de la relance, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
We pave a strong path for our people and for the next generation.
Nous préparons un terrain solide pour nos peuples et pour la prochaine génération. Pour moi, le choix est simple. Je veux que nous fassions un nouveau pas courageux tous ensemble. L'Europe est dans une position unique pour pouvoir investir dans une relance collective et dans un avenir commun. Dans notre Union, nous savons que les mesures les plus audacieuses sont véritablement les plus sûres pour notre avenir. C'est la raison pour laquelle la Commission propose aujourd'hui un nouvel instrument de relance appelé Next Generation EU, d'une valeur de 750 milliards d'euros. Il s'ajoutera à un budget européen à long terme, révisé de 1100 milliards d'euros. Et tout en menant ces actions, nous devons également avancer vers un avenir vert, numérique et résilient. Il s'agit de l'avenir de la prochaine génération européenne.
C'était mercredi dernier la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de la Commission européenne, qui présentait son plan de relance d'un montant inédit, 750 milliards d'euros pour Ursula von der Leyen. Ce montant doit permettre de surmonter la crise du Covid, mais aussi d'accompagner l'Europe dans un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 afin de propulser le continent dans un futur vert, disait-elle, numérique et résilient. Mais que contient ce plan précisément? Est-il de nature à organiser la transition écologique dans ce continent européen? Et puis, qu'en est-il ailleurs, du côté des États-Unis ou encore de la Chine? Est-ce que cet impératif est lui aussi une contrainte qu'on inclut dans les programmes de soutien ou pas tout à fait? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Christian de Pertuis. Bonjour Christian de Pertuis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, fondateur de la chaire d'économie du climat de l'Université Paris-Dauphine. Vous aviez signé l'année dernière le tic-tac de l'horloge climatique. Avec nous également Cédric Durand. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et maître de conférence à l'Université Paris-Nord. On va beaucoup parler ce matin justement de ce plan de relance européen, mais peut-être un tout petit mot d'abord pour évoquer les effets positifs de ce confinement. Ils sont rares, hein, parce qu'évidemment les plus néfastes, ce sont des effets économiques et sociaux absolument dévastateurs, mais le côté positif, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, Christian de Pertuis, de ces émissions, dans quelle mesure ont-elles justement diminué et jusqu'où faut-il se réjouir, Christian de Pertuis?
Alors d'abord, on ne peut pas se réjouir d'une pandémie. Je pense qu'il faut être clair, si vous voulez. Il n'y a pas lieu de se réjouir du fait que la moitié de l'humanité a été confinée à cause d'une attaque d'un virus dont on nous prévenait depuis à peu près une vingtaine d'années.
Entièrement d'accord, Christian de Pertuis, ce n'était pas le sens de mon commentaire, évidemment, vous l'avez compris.
C'est pour préciser, parce oui, bien que parfois... Sûr. Parfois, les gens me disent, mais tu as l'air d'être content. Non, je ne suis pas content.
Si bien sûr, voulez. Bien sûr.
Alors, à la différence des autres pollutions locales, comme par exemple les pollutions des NOx ou des microparticules, on ne mesure pas en temps réel les émissions de CO2. Mmh. Ça veut dire que lorsqu'on voit un nuage de pollution disparaître au-dessus de Milan, au-dessus de la Roure, au-dessus de la Chine, on sait mesurer en temps réel la baisse des émissions des polluants locaux. On ne sait pas mesurer en temps réel la baisse du CO2. Donc, on est obligé de l'estimer. Comment est-ce qu'on l'estime? Eh bien, on l'estime principalement à partir d'indicateurs indirects que sont la consommation d'électricité, la consommation de charbon, les consommations d'énergie. À partir de ces constats-là, on voit que effectivement, la mise à l'arrêt de l'économie, et ce n'est pas une surprise, a mis à l'arrêt une grande partie des émissions de CO2, principalement celles qui sont liées à tout ce qui concerne la mobilité, les transports, le tourisme, et également celles qui concernent la production d'électricité. Il faut savoir que dans les émissions de CO2, à peu près 40% de l'origine, c'est la production électrique.
Donc c'est une évaluation, c'est ça que je comprends.
Donc c'est une évaluation. L'évaluation est très forte. Sur l'ensemble de l'année, l'Agence internationale de l'énergie estime aujourd'hui que la baisse des émissions de gaz à effet de serre serait de l'ordre de 8% sur l'année. Les calculs que nous avons faits donnent une fourchette qui va de -3 à -14%.
D'accord.
Je pense aujourd'hui qu'on sera plutôt plus proche des -14% que des -8%.
Cédric Durand, il y a aussi une autre chose qu'il est difficile de mesurer, mais qui pourtant est probablement bien réel, c'est notre conviction qu'il faut prendre ce virage de l'écologie avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre et ce confinement forcé qui a évidemment d'abord des effets délétères, mais on a aussi découvert de nouvelles choses, y compris chez nous, dans nos villes, qui pourtant le reste de l'année sont totalement irrespirables. Elles respirent à nouveau, on avait peut-être oublié, mais il y a encore des oiseaux. La conviction qu'il faut prendre ce virage de l'écologie, il a été renforcé très clairement par ce confinement.
Oui, j'ai aussi cette impression-là. Il y a une prise de conscience plus aiguë de la vulnérabilité de nos sociétés à leur intégration dans la biosphère. Et la première idée à retenir de cette crise, c'est que ce n'est pas une crise qui est externe. Hein. Il y a beaucoup d'arguments qui disent, voilà, le virus, il vient de nulle part. Non, le virus, il est aussi associé à la pression continue des activités humaines sur la biosphère. Et donc les spécialistes des virus expliquent qu'il faut s'attendre à davantage de virus de ce type-là. Pourquoi précisément? En raison de cette plus grande immixtion des activités humaines et réduction des espaces sauvages. Et au-delà de ce cas-là, eh bien c'est un avertissement. C'est un avertissement ou peut-être plus inquiétant encore, c'est un avant-goût des conséquences que vont avoir les dérèglements écologiques multiples qui ont été provoqués par le développement du capitalisme industriel et son accélération au cours de la dernière au cours du siècle dernier.
Venons-en peut-être à...
Alors, du point de vue de...
Je vous en prie, vous voulez poursuivre, je vous en prie.
Oui, je voulais insister sur une autre idée, c'est peut-être sur un registre plus positif. Il y a quand même quelque chose que l'on a appris tous ensemble qui est extrêmement spectaculaire, c'est qu'on peut changer de mode de vie rapidement, brutalement, et avec certes des désagréments très importants, et puis tout le monde l'a pas vécu de la même façon, il y a eu des situations extrêmement difficiles, mais néanmoins il y a un apprentissage sur le fait qu'il y a une certaine flexibilité dans nos sociétés. Et je pense que retenir ça aussi de cette pandémie, ça ouvre davantage de possibles pour imaginer une transition écologique que ce qui existait précédemment.
Alors Christian de Pertuis, venons-en à ce plan de relance que j'évoquais dans mon introduction. On se souvient que l'écologie c'était la grande priorité de la Commission européenne quand elle est rentrée en fonction en décembre dernier. Il y avait cette ambition de déployer un nouveau pacte environnemental à l'échelle de l'Europe. Quelques mois plus tard éclate cette crise sanitaire qui met nos économies à très rude épreuve et la Commission décide donc de sortir ce plan de relance absolument inédit dans l'histoire de l'Europe, 750 milliards d'euros. La couleur, Christian de Pertuis, de ce plan de relance, est-ce qu'on est dans un vert bien vif qui va mettre un coup d'accélérateur sur l'écologie ou un vert un petit peu palo, qui a d'abord pour objectif de remettre nos économies sur les rails au plus vite? Christian de Pertuis.
Ce qui est inédit dans ce plan de relance, ce n'est pas uniquement son montant, c'est le fait qu'on va financer avec de l'argent européen des relances nationales, si vous voulez. Donc il y a un premier volet qui est très important, qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que ces 750 milliards d'euros, ils sont levés par l'Union européenne, par la Commission européenne, et ils sont ensuite redistribués aux États nationaux, ce qui fait que le principe d'une redistribution depuis les États riches vers les États pauvres, pour faire simple, entre l'Allemagne et ses satellites, et l'Italie et l'Espagne, la France étant quelque part au milieu, est acté par la Commission, sous réserve que le Conseil européen... Donc ça, c'est le premier point qui est, je crois, très important. Une mutualisation des dépenses d'investissement. Deuxième point, est-ce qu'il est totalement vert? Est-ce qu'il est totalement noir? C'est extrêmement difficile de le dire tant que n'ont pas été mises en place les mesures. Ce qui compte, c'est pas dans un plan de relance, c'est pas les effets d'annonce, aussi vert soit-elle, c'est évidemment qu'est-ce qu'on va mettre en place. Les effets d'annonce sont très verts. Et ils sont très verts parce que je pense que, Guillaume l'a dit, ça répond effectivement à une demande sociale très importante. Qu'est-ce qui est important? Je crois trois choses. Premièrement, il y a dans le choix des investissements un accent très fort marqué sur ce qui est classique, hein, les énergies renouvelables, le stockage de l'électricité, la rénovation des bâtiments, quelques autres. Bon. Deuxième point, pour faire de la relance verte et surtout de la relance bas carbone, il faut investir dans de nouvelles infrastructures bas carbone, mais il faut désinvestir des énergies fossiles. Ce point est très important. Ce qui fait réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas d'ajouter des éoliennes et des panneaux photovoltaïques au système énergétique, c'est de retirer les énergies fossiles. Donc, désinvestir des fossiles, ça implique des reconversions.
Et de ce point de vue-là, il y a eu des annonces sur ce plan d'Ursula von der Leyen ?
Voilà, de ce point de vue-là, il y a une annonce qui est importante, c'est qu'on a multiplié par 5 le fonds qui est destiné à soutenir spécifiquement les territoires qui sont les plus dépendants des énergies fossiles.
Vous parlez du mécanisme de transition juste.
Voilà, d'accord. Ce mécanisme de transition juste est, je crois, un point tout à fait nouveau et très important.
Qui est passé de 7,5 milliards à 40 milliards, si mes chiffres sont bons.
Pour le fonds.
Ouais, pour le fonds.
Le mécanisme dans son ensemble vise, dans le Green Deal initial, c'était 100 milliards pour ce mécanisme et 1000 milliards pour les investissements verts.
D'accord.
Je pense qu'en réalité, l'ordre de grandeur n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Il faut beaucoup plus pour accompagner les restructurations auxquelles nous obligent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, si on veut les faire.
Allez-y, troisième point, et puis ensuite je passerai la parole à Cédric Durand.
Vous m'arrêtez si je suis trop bavard.
Non, je vous en prie, allez-y.
Les profs sont souvent trop bavards. Le troisième point, c'est qu'il faut s'assurer qu'on met en place des instruments économiques qui vont permettre de faire cette bascule depuis le brun vers le vert. Mmh. Plus exactement, depuis le carboné vers le bas carbone, puisque moi, c'est le changement climatique qui est ma spécialité. Mmh. Et là, le point très important, c'est qu'il y a des annonces qui sont faites sur l'utilisation de mécanismes de tarification carbone, notamment une taxe carbone aux frontières, notamment un élargissement de la taxation carbone vers le maritime et l'aérien, qui sont des éléments... Mmh. Très important, encore faut-il les mettre en place à temps. Parce que l'une des particularités de l'Union européenne, et là je connais assez bien la question sur le système d'échange de quotas, c'est de prendre des décisions en 5 ou 6 ans.
Ouais.
Alors que là, il faut les prendre.
Il faut aller beaucoup plus vite. On va y revenir à la fois sur la question de la taxe carbone aux frontières, sur le secteur aérien, j'ai prévu aussi d'en parler. Mais Cédric Durand, comment vous jugez-vous la couleur de ce plan de relance sur ce principe redistributif dont on dit effectivement qu'il constitue une véritable révolution peut-être dans l'histoire de la construction européenne, si tant est évidemment qu'on s'accorde sur ce plan-là, mais a priori on sent que les résistances sont en train de sauter les unes après les autres. L'Allemagne, je pense, a compris, là ça y est, que tout cela était absolument indispensable et qu'il fallait aller dans ce sens de ce plan de relance. Il y a encore 2-3 résistances au niveau des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, mais tout ça devrait normalement s'arranger. Cédric Durand, comment vous voyez-vous ce plan de relance ?
Alors la première chose, c'est qu'il me semble que c'est inadéquat d'envisager aujourd'hui des plans de relance. L'enjeu de cette crise du Covid-19, il ne s'agit pas aujourd'hui de relancer les économies, il s'agit d'organiser leur mutation, leur transformation structurelle. Et tant qu'on est dans le registre des plans de relance, eh bien on est vraiment sur une logique secteur par secteur et dans beaucoup de cas entreprise par entreprise, hein, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs de soutien qui vont directement aux entreprises et qui par conséquent ne changent pas la structure de l'économie et donc n'engagent pas véritablement cette transition. Donc la question du vocabulaire est importante. Hein. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une logique de relance et c'est pas ce qu'on devrait être en train de faire. La deuxième chose, c'est il faut remettre ce plan dans ses justes proportions qui sont somme toute assez limitées. Hein. Si on met bout à bout, ça représente un montant annuel de l'ordre de 0,6% du PIB européen. C'est pas négligeable, mais c'est quelque chose de finalement assez limité, y compris si on considère qu'il y a en parallèle d'autres dispositifs politiques extrêmement importants, en particulier le fait que la Banque Centrale Européenne achète sur les marchés de la dette des entreprises et leur permet de se refinancer à des taux négatifs pour les très grandes entreprises. Et ça, c'est des montants qui sont tout à fait considérables, dont on ne discute pas et qui, pour l'instant, ne répondent pas à des critères écologiques. Donc, si vous voulez, il y a un effet un petit peu d'optique avec effectivement une volonté affichée qui est bienvenue, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est sans doute pas assez ambitieuse, mais qui même si mais qui est en partie trompeuse puisque tout ne se joue pas là, loin de là.
Donc, si je vous entends bien, Cédric Durand, c'est quand même une critique très très vive à l'égard de ce plan. Non seulement il n'est pas à la hauteur au niveau de ce qu'on met sur la table, mais en plus, ils ne changent pas la structure de nos économies. Pourtant, quand on parle de la question, par exemple, des taxes carbone aux frontières, c'est quelque chose qu'on évoque depuis des années, cette taxe carbone aux frontières. Là, visiblement, il se pourrait qu'un projet arrive sur la table très très vite, d'ici, quand je dis très très vite, c'est dans l'année, hein, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, et qu'on décide de cette taxe aux frontières dès l'année prochaine ou celle d'après. C'est assez rapide et c'est un vrai changement, ça, Cédric Durand.
C'est une très bonne nouvelle, effectivement, de mettre en œuvre une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire d'avoir d'autres indicateurs que des indicateurs de prix pour réguler le commerce international, de mettre de la qualité dans l'échelle internationale. Et ça, je trouve effectivement que c'est très bien. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour les pays en développement, ça peut être quelque chose qui les menace, qui les fragilise. Et je trouve que ce qui manque, c'est la contrepartie de cette taxe carbone aux frontières, qui serait une liberté d'accès aux connaissances permettant de produire proprement. Hein, si vous voulez, si vous fermez les frontières aux productions des pays du Sud, mais que dans le même temps vous fermez par les droits de propriété intellectuelle l'accès aux technologies vertes, eh bien vous faites vraiment que la moitié du chemin, et ça ne peut être lu autrement que comme un acte d'hostilité par les autres pays. Donc il y a très bien hein, de mettre une taxe carbone aux frontières, mais en échange, si vous voulez, la contrepartie, ça doit être de libérer l'accès à la connaissance écologique.
Christian de Pertuis, vous rejoignez Cédric Durand sur ce point. C'est bien, mais on ne va pas assez loin sur cette taxe carbone aux frontières.
Sur la taxe carbone, alors, d'une façon générale, si vous voulez, le gros problème de la Commission, c'est que ce qui est de l'ordre, effectivement, disons, de l'investissement écologique, c'est communautaire, hein, puisque la politique environnementale est de l'ordre communautaire. Ce qui est de l'ordre social est... rester au niveau national, donc tout ce qui est redistribution des instruments économiques, que ce soit une taxe carbone aux frontières ou une taxe carbone intérieure, n'est pas du ressort de la Commission européenne. C'est un peu comme la politique monétaire qui est commune à la zone euro, mais pas les politiques budgétaires. Donc on est très limité dans la redistribution des outils. Bon, je pense que la taxe carbone est un outil qui est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Il est évident qu'il ne faut pas appliquer la taxe carbone aux pays les moins avancés. L'Europe aujourd'hui devrait surtout réfléchir à comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la suppression de la dette publique, notamment des pays d'Afrique au sud du Sahara. Je rappelle qu'il y a eu un moratoire qui est juste un gagner du temps, c'est-à-dire qu'on donne des délais à ces pays-là, mais ces pays sont totalement étranglés aujourd'hui sur les marchés financiers, hein, puisque, en gros, la part de la dette publique est détenue par des créanciers privés, qui est à peu près 40%, les taux d'intérêt ont explosé. Hein. Donc là, il y a une urgence, et l'urgence, c'est vraiment, effectivement, donner du mou à ces pays d'Afrique au sud du Sahara. La taxe carbone, elle est utile essentiellement par rapport aux grands compétiteurs qui sont susceptibles de faire du dumping environnemental, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. Hein. Vous avez des outils de production qui fonctionnent à partir du gaz qui est beaucoup moins cher, du pétrole qui est devenu beaucoup moins cher, qui sont prêts à rentrer sur le marché européen pour fournir des plastiques, des engrais et des tas d'autres produits.
Mais Christian de Pertuis, pardon de vous couper, mais si vous mettez une taxe carbone aux frontières seulement pour les États-Unis et la Chine, pour des raisons tout à fait valables que vous avancez, c'est clair qu'ils vont réagir. Il va y avoir une riposte, c'est évident.
Bien sûr.
Et on va le payer cher.
Bien sûr, non. L'enjeu, pour moi, l'enjeu est très clair. Hein. La taxe carbone est une façon technocratique de poser un problème beaucoup plus fondamental, qui est celui de est-ce que l'Union européenne, qui a un poids dans les échanges internationaux équivalent à celui des États-Unis ou de la Chine, est prête à affirmer une doctrine en matière de commerce international. Et cette doctrine doit être claire, si on croit au Green Deal, c'est de soumettre la liberté internationale du commerce à des normes climatiques qui doivent être supérieures. Et vous voyez que dans le différend commercial États-Unis-Chine, qui envahit tout l'espace depuis maintenant 4-5 ans, ces deux grandes superpuissances font de leurs différends bilatéraux les nouvelles règles du commerce international, et l'Europe ne dit rien.
Oui, j'entends que vous trouvez que c'est pas juste, Christian de Pertuis, sauf que visiblement, et ensuite je passe la parole à Cédric Durand sur ce point qui est très important, visiblement du côté de la Commission, on n'a pas du tout l'air enclin à mettre en place une taxe carbone aux frontières à géométrie variable. Frans Timmermans, qui est le commissaire néerlandais chargé du pilotage du Green Deal, il a déjà dit que cette taxe, il faudrait qu'elle soit en ligne avec les règles de l'OMC.
Bien sûr.
Donc ça exclut cette hypothèse.
Pour l'instant, oui. Mais l'histoire est loin d'être dite, si vous voulez.
Bien sûr, l'histoire se fait, hein. C'est ça qui est intéressant, évidemment.
Et l'histoire se fait, et en plus, la taxe carbone, si elle est mal phagocytée, risque de surprotéger les industries comme l'acier, comme le ciment, au détriment des industries aval, par exemple, surprotéger les producteurs d'acier au détriment des fabricants d'éoliennes ou de voitures. Donc, il y a des tas de pièges dans cette taxe carbone. C'est pas un instrument miracle, c'est un instrument extrêmement difficile à mesurer, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est que la problématique de la taxe carbone pose la question de l'existence ou non d'une doctrine de l'Europe en matière de commerce international. C'est le vrai enjeu de moyen terme.
Cédric Durand, vous êtes d'accord? Derrière la taxe elle-même, est-ce que ça va rapporter? Il y a un enjeu idéologique en réalité.
Oui, moi je pense qu'il y a un enjeu idéologique sur la question du commerce international qui est posé depuis plusieurs décennies par les associations. C'est effectivement de faire en sorte que les normes de commerce international soient subordonnées à d'autres principes, des principes qui soient écologiques en termes de normes sociales ou de respect des droits humains. Et il y a toute une série d'initiatives qui, dans le domaine du commerce, mais aussi sur la responsabilité juridique des multinationales vis-à-vis de leur chaîne globale de valeur, qui vont dans cette direction-là. Donc, bon, ça nous décale un tout petit peu par rapport au sujet, mais la question de la crise de la mondialisation qu'on vit aujourd'hui, c'est bien l'épuisement d'un modèle dans lequel la liberté d'investissement et la liberté de circulation des marchandises étaient la norme suprême de régulation des échanges économiques.
Si non, je crois qu'on est
avancé dans cette direction.
On est au cœur de notre sujet. On va prendre un autre exemple, peut-être, que Christian de Pertuis a évoqué tout à l'heure, qui est le secteur aérien, qui est évidemment un secteur qui a été particulièrement touché par cette crise sanitaire. Pour dire en quelques mots, là, évidemment, c'est un secteur qui a été très touché. Quand on regarde les chiffres de l'Association internationale du transport aérien, on nous dit que l'impact sanitaire sur le chiffre d'affaires des compagnies en 2020 sera de l'ordre de 286 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est une chute de 55% par rapport à 2019. Donc on voit un peu l'impact que ça a été. Mais voilà, un secteur, évidemment, qui est d'abord très très dépensier en termes d'émissions de gaz à effet de serre et dont il faut évidemment urgemment opérer des transformations pour lui faire là aussi prendre le virage écologique. Si on regarde ce qui a été fait en France, Christian de Pertuis, c'est-à-dire un plan de soutien seulement à Air France, pas à l'ensemble du secteur, hein, il en a été question au début, finalement on a fait le choix de ne soutenir qu'Air France. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Il fallait permettre à Air France d'échapper au risque de faillite, mais il ne fallait pas soutenir ce secteur qui n'est pas franchement vertueux écologiquement. On a fait le bon choix, là, Christian de Pertuis ?
La vérité, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, si vous voulez. Quand vous avez une compagnie nationale qui est en faillite, assumer cette faillite et laisser les avions au sol indéfiniment me paraît quelque chose qui est de l'ordre de plus la querelle intellectuelle que la nécessité de terrain. Sur le transport aérien, moi, il y a une chose qui me paraît importante. C'est qu'il ne faut pas gérer la question du soutien aux compagnies aériennes au cas par cas, en négociant ou en pseudo-négociant des espèces de conditionnalités environnementales dont personne ne sait très bien ce qu'elles veulent dire et qui ne seront jamais appliquées sitôt que l'argent public aura été encaissé.
Vous faites référence à quoi ?
Aux conditionnalités environnementales qui ont été discutées avec Air France. Si vous voulez, on discute de savoir s'il faut supprimer ou non la navette Paris-Bordeaux, si vous voulez. C'est un épiphénomène. La vraie question économique pour Air France, c'est que c'est le moyen et surtout le long courrier qui fait l'argent et le bénéfice et qui fait les émissions de gaz à effet de serre. Bon, il y a une régulation internationale qui se met en place sur le transport aérien, qui s'appelle la régulation CORSIA, qui est beaucoup trop faible, mais elle a quand même une particularité, cette régulation, c'est qu'elle prenait l'année 2020 comme année de référence. Et du coup, elle devient beaucoup plus contraignante pour les compagnies aériennes si on la maintient en place. Tous, ils veulent la détricoter. Moi, je pense que l'enjeu principal sur le transport aérien, comme sur le transport terrestre, c'est de maintenir et de continuer à accroître les régulations globales, qui ne concernent pas telle ou telle compagnie, mais l'ensemble du secteur. Et pour moi, l'enjeu principal, c'est dans le transport terrestre de maintenir et de continuer à accroître les régulations sur les normes de CO2 par voiture vendue. Ils veulent tous les assouplir ou les reporter, et c'est de maintenir en place la régulation Corsia qui va devenir effectivement contraignante si elle n'est pas détricotée par les compagnies aériennes et leur quasi-représentant institutionnel qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Cédric Durand, sur cette question du transport aérien et du transport peut-être en général, parce qu'on pourrait introduire la question de la voiture aussi, parce que là aussi, il y a eu aide de l'État, il va y avoir aide de l'État pour Renault, mais il y a une condition à cela, c'est que Renault intègre l'alliance des batteries, le fameux Airbus de la batterie dont on parle depuis des années, qui est ce projet franco-germano-européen de développement d'une filière industrielle qui va permettre de sortir de la dépendance chinoise et coréenne. Est-ce que là aussi, il vous semble qu'on a fait un vrai pas en avant là et que on va vers une véritable transformation de fond de cette industrie automobile qui là aussi est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre très importantes, bien sûr, Cédric Durand.
Alors, la première idée, c'est qu'il y a effectivement là aussi un basculement idéologique dans l'idée qu'il faut de nouveau faire de la politique industrielle. La politique industrielle, c'est quelque chose qui a été quasiment tabou pendant une trentaine d'années en Europe. On avait une politique de la concurrence qui était prééminente. Et depuis quelques temps, on redécouvre les vertus de la politique industrielle. Et c'est ce qui se passe à l'occasion, par exemple, du plan sur les batteries que vous avez évoqué à l'instant. En revanche, du point de vue des objectifs environnementaux, la méthode qui est suivie, à mon sens, n'est pas la bonne. Parce que la méthode qu'il faudrait suivre, ça serait d'avoir des objectifs par secteur qui correspondent à un niveau d'émission. Et des objectifs par secteur qui correspondent à un niveau d'émission qui sont des objectifs contraignants. Aujourd'hui, on met par exemple le paquet sur la batterie, la voiture électrique qui par kilomètre consomme moins de CO2. Mais ce qui souvent est oublié, c'est qu'on a tendance à faire accélérer la rotation des véhicules, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des véhicules neufs qui arrivent, qui soient plus propres. Mais ce faisant, on oublie l'énergie grise, hein, si vous voulez, les émissions qui ont été nécessaires pour fabriquer les véhicules. Or, on sait que dans un véhicule approximativement, ça va être un tiers, enfin dans les transports en général, approximativement c'est un tiers de consommation d'énergie plus deux tiers qui correspond à l'énergie qui était nécessaire pour fabriquer, pour acheminer les moyens de transport. Donc il y a toute cette part qui reste dans l'ombre, qui évidemment est moins marketing, mais qui est très importante du point de vue de l'impact. Alors pourquoi j'indique ça ? C'est parce que finalement la solution qui est recherchée, c'est celle du capitalisme vert, consiste à trouver une nouvelle révolution dans les modes de consommation associée aux consommations, si vous voulez, environnementalement moins néfastes. Mais le problème de cette stratégie-là, c'est qu'elle consiste à faire accélérer la rotation des marchandises. Et en accélérant la rotation des marchandises, certes, on permet d'avoir des profits et unitairement, on a des produits qui polluent moins, mais l'effet global n'est pas une diminution de la pollution. Autrement dit, on pourrait imaginer des conditionnalités d'un tout autre ordre pour réfléchir à ce qui se passe dans l'aérien ou dans l'automobile. Dans l'automobile, par exemple, on pourrait imposer des normes, non seulement en termes d'émissions de gaz par les véhicules, mais également de durée de vie des véhicules. Hein, faire en sorte que les véhicules durent plus longtemps, soient davantage réparables, etc. Et ça, il y aurait un impact tout à fait important à moyen et long terme. Mais ce type d'effort a une contrepartie, c'est que les perspectives de profit des entreprises seraient menacées. Et là, on se retrouve avec une situation qui est extrêmement difficile à gérer dans le contexte actuel, c'est que les normes environnementales dont on a besoin, ce sont des normes de réduction de la circulation des marchandises, de la rotation des marchandises, ce sont des normes donc de lutte contre l'obsolescence programmée, si vous voulez, ce sont des normes impératives en termes de gaz à effet de serre, non pas par unité, mais par secteur, et là, tout de suite, on bute sur les contraintes de rentabilité.
Oui, il y a même une chose à laquelle on pourrait penser, c'est tout simplement électrifier les véhicules qui existent déjà. Alors évidemment, ça a un coût, mais sauf que vous évitez de mettre à la poubelle des milliers, des millions de voitures. Christian Depertuis, vous êtes d'accord sur ce point-là, avant de passer aux États-Unis, à la Chine, peut-être qu'il faut évoquer pour mettre en regard justement les deux plans de relance, les deux paradigmes qu'il y a derrière.
C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Je suis en partie d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pas sur la totalité, et je rajouterai un point. Je pense que la question de la rotation est assez compliquée, parce que si au nom de l'allongement de la durée de vie des véhicules, on conserve des véhicules thermiques qui ont été construits il y a 5 ou 6 ans, on ne va pas dans la bonne direction. L'autre point, c'est que je crois qu'il y a un débat extrêmement important qui est entre la voiture et les autres modes de transport, notamment les transports en commun. Et il y a un débat encore plus important, qui est celui du type de mobilité vers lequel on va aller demain. Mobilité des marchandises et mobilité des personnes. Ça, je crois que c'est très important. Et ça renvoie, me semble-t-il, quelque part, à la question de la vitesse. C'est-à-dire que le capitalisme thermo-industriel d'hier, hein, si vous voulez, en matière de transport, est une course permanente à la vitesse. Et on aboutit à des absurdités, qui est qu'on utilise des véhicules qui sont faits pour rouler à 180 km/h pour amener ses enfants à l'école, si vous voulez, en centre urbain. Vous voyez, donc je crois que cette question, derrière la question de la voiture, il y a le partage entre véhicules individuels et transports collectifs, et puis il y a la question de cette course incroyable à la vitesse. Yves Crozet, qui est un économiste du transport, a calculé une élasticité PIB de la vitesse, vous voyez, on n'arrête pas, vous voyez. Et là, je crois que c'est bien l'une des limites du capitalisme de demain, le capitalisme vert à laquelle il a été fait allusion. Moi, je l'appelle plutôt le capitalisme numérique ou le capitalisme viral, qui est le capitalisme des réseaux. Ce capitalisme-là, effectivement, son moteur est bien effectivement de valoriser en permanence des nouveaux marchés. Alors, ce capitalisme est très différent du capitalisme d'hier parce qu'il ne repose pas sur les fossiles, mais il a bien d'autres inconvénients et bien d'autres gravités en matière sociale, en matière de contrôle et en matière effectivement de rapport à la nature.
Alors, Cédric Durand, j'ai entendu que vous vouliez réagir, alors je vais vous donner la parole. On fera ensuite les États-Unis et la Chine, j'aimerais qu'on en dise un mot, mais je vous entendais dire c'est faux. Alors, je vous laisse la parole, Cédric Durand.
Oui, c'est-à-dire que si on veut véritablement diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'automobile, il vaut mieux faire rouler plus longtemps des vieilles voitures que les remplacer par des voitures plus propres. L'impact global sera moindre pour le climat, puisque une grande partie des émissions de gaz à effet de serre associées à l'automobile ne sont pas liées directement à la consommation de carburant par les voitures elles-mêmes, mais par les coûts de leur fabrication, de leur acheminement, etc. Donc l'idée qu'il faille remplacer, si tout le monde remplace rapidement ses voitures et prendre des voitures électriques, ça serait plus écologique que de faire rouler plus longtemps des vieilles voitures plus polluantes lorsqu'elles circulent, est une idée qui est erronée. On a intérêt à faire durer longtemps les vieux véhicules.
On est avec vous, Cédric Durand, et vous, Christian de Pertuis, dans cette nouvelle série consacrée à notre rapport à la nature. Repensez notre rapport à la nature. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question de la relance, de la couleur de la relance. Et on va rester justement dans l'automobile, mais on va regarder du côté de nos voisins allemands. Vous écoutez France Culture, il est 11h32.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Dans le secteur automobile, aussitôt que les voitures sont achetées, l'économie se met en route. Le concessionnaire est rassuré, nous augmentons la production, les fournisseurs augmentent aussi leur production, et tous peuvent ainsi embaucher des personnes. Ce qui nous préoccupe, c'est que les voitures ne sont pas dans les esprits de nos clients en ce moment. Nous serions heureux s'il y avait des incitations à la consommation.
Voilà, on entendait là la voix du PDG de Volkswagen, puisqu'en Allemagne, le secteur automobile est en très grande difficulté avec des ventes et des productions de véhicules en chute libre au mois d'avril. Résultat, le gouvernement fédéral devrait annoncer bientôt un plan de relance dans les jours qui viennent, mais celui-ci fait déjà débat et fait grincer les dents chez les écologistes notamment, d'autant que le secteur a été violemment touché par une autre crise. C'est une crise de confiance, celle-là, qui a éclaté il y a 5 ans maintenant, qu'on a appelé le Dieselgate, ces constructeurs qui ont truqué leur moteur diesel pour rentrer dans les clous des réglementations en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques et conseiller au Conseil économique, social et environnemental. La filière automobile allemande, c'est une baisse de la production de 37%, 32% de ses exportations. C'est une situation qui pousse les constructeurs à demander, à implorer l'instauration d'une nouvelle prime à l'achat. Sauf que visiblement, la solution, cette option-là, ne fait pas l'unanimité. Alors, chez les écologistes, bien sûr, mais pas non plus chez les responsables politiques, chez Angela Merkel, pas non plus visiblement chez les économistes. C'est quoi le problème, Guillaume Duval ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'automobile en Allemagne, ça n'a plus rien à voir avec l'automobile en France. Hein. Donc, c'est presque 5 millions de voitures particulières produites chaque année, et nous, on est à 1,7 million, donc presque 3 fois moins. C'est 870 000 emplois directs, nous, c'est 223 000, 4 fois moins. Donc, c'est quelque chose d'énorme dans l'industrie allemande. C'est vraiment devenu le moteur de l'industrie allemande, même quand quand on parle des machines outils, etc., en général, ce sont des machines pour l'industrie automobile. Donc, c'est le cœur du système industriel allemand. Il était effectivement déjà en crise, non seulement avec le Dieselgate, mais même avec une chute des ventes importantes avant la crise du coronavirus. Mais c'est vrai que là, tous les constructeurs ont peur que ce soit un coup fatal qui soit porté à l'industrie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas encore décidé, mais on discute en Allemagne, comme en France, hein, d'une prime à l'achat pour remplacer les vieilles voitures par les voitures neuves qui consomment moins électrique, etc. Donc, j'ai entendu que vous en discutiez juste précédemment. Mais c'est vrai que même ce qu'on discute en Allemagne est quand même d'une ampleur finalement inférieure à ce qui est en train d'être mis en place en France, hein. Donc le plan pour l'automobile, ce serait un plan de l'ordre de 5 milliards d'euros. Celui qu'a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière, il était présenté pour 8 milliards d'euros. Alors il y a toujours un peu de gonflette, c'est pas toujours très facile de comparer les chiffres. Mais c'est vrai que là, il est question d'une prime à l'achat de 2 500 €, ce qui est relativement peu par rapport à ce qui est fait en France. Donc cette situation est liée effectivement à des difficultés politiques, difficultés avec les écologistes bien sûr, mais c'est pas simplement le parti écologiste, hein, donc c'est l'opinion publique allemande qui est beaucoup plus sensible à l'écologie qu'en France, même si ça évolue en France.
Oui, j'ai lu un sondage aussi d'opinion, pardon de vous couper, un sondage d'opinion qui dit que les Allemands seraient majoritairement opposés à cette prime d'achat. 63% d'Allemands seraient opposés à cette prime d'achat. Prime à l'achat, pardon.
Oui, donc il y a à la fois la sensibilité écologique qui joue et puis la sensibilité austéritaire, hein, donc l'idée que c'est de l'argent public qu'on va gaspiller. Donc ça ne facilite pas les choses, effectivement, pour le lobbying de l'industrie allemande autour de ces mesures. Je pense malgré tout que compte tenu de l'enjeu social en particulier, ça se fera malgré cette opposition, malgré ces réticences, parce que là, c'est vrai que dans des régions comme la Bavière, dans des régions comme le Bade-Württemberg, c'est un enjeu d'emploi absolument colossal.
Et est-ce que ça sera de nature à répondre au défi? Pour répondre à cette question, peut-être, Guillaume Duval, faut-il introduire ce qu'on avait fait il y a une dizaine d'années maintenant, en 2009, où là aussi on avait mis en place une prime gouvernementale, je crois que c'était 4 000 € à l'époque, pour l'achat d'un nouveau véhicule. Ça avait fonctionné? Ça avait permis de relancer le secteur?
Oui, mais là, il y a effectivement des questions plus structurelles derrière. Alors, est-ce que les habitudes des consommateurs vont réellement changer sur les questions de déplacement? Quel va être l'impact du télétravail à moyen terme? Donc là, il y a beaucoup d'incertitudes nouvelles. Mais c'est vrai que, de toute façon, la mutation du secteur, indépendamment de cette politique de reprise, va être formidable et est une formidable menace pour l'industrie allemande, l'industrie automobile allemande, qui a pris plutôt beaucoup de retard jusqu'ici sur les questions d'électrification, sur les questions de voitures autonomes. Alors, des constructeurs comme Volkswagen essayent de rattraper ce retard. Ils ont investi beaucoup dans les batteries en Chine, enfin dans des sociétés qui fabriquent des batteries, des moteurs électriques, etc. Ils s'allient avec Ford sur les véhicules autonomes, mais en tout cas ça va forcément secouer, au-delà même de l'impact immédiat de cette crise, ça va forcément secouer très profondément l'industrie automobile allemande. Fabriquer des voitures électriques, des moteurs électriques, ça demande beaucoup moins de main-d'œuvre, a priori, en tout cas chez les constructeurs, que des moteurs thermiques, qui étaient souvent fabriqués en interne dans les entreprises. Donc c'est de toute façon une formidable mutation qui est devant elle, devant l'industrie allemande, d'autant que, comme vous le disiez, elle exporte beaucoup à partir de l'Allemagne et que la politique commerciale de Trump en particulier reste aussi une menace supplémentaire sur une partie de ses débouchés.
Toute dernière question, Guillaume Duval, et puis je passe la parole à nos deux invités, Christian Depertuis et Cédric Durand. Est-ce qu'on peut imaginer le scénario suivant qui est, parce que vous le disiez, en Allemagne, on a pris du retard. Non seulement on a pris du retard, mais en réalité, les modèles, alors soit électriques, soit hybrides, sont assez chers en Allemagne. Les premiers modèles sont assez chers. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où finalement le consommateur allemand se tournerait projet vers d'autres producteurs. Et là, je pense évidemment aux producteurs français. Je pense à Renault, je pense à Peugeot. Est-ce que les constructeurs français pourraient finalement tirer leur épingle du jeu? Ce serait la grande revanche de l'automobile française. C'est un scénario possible ou je délire complètement?
C'est un scénario peut-être possible, mais en tout cas qui n'est pas immédiat. Hein. Mmh. Donc, les Allemands ont pris des habitudes de rouler dans des très grosses voitures, très lourdes, très équipées. Donc c'est dans ce contexte-là que électrifier une voiture comme ça, c'est la rendre encore plus lourde et donc encore plus coûteuse. C'est pas sûr qu'ils soient en mesure rapidement de changer d'attitude là-dessus. Après, je pense qu'on va tous vivre, pas simplement les Allemands, les Français aussi, hein, une mutation formidable. Oui. L'enjeu, c'est d'arrêter d'avoir à posséder chacun une voiture qu'on laisse 95% le long d'un trottoir qui l'encombre. Est-ce qu'on est capable, après cette crise, de mettre en place des véhicules partagés, accessibles facilement, aisément, en complément de transports en commun plus développés. Donc, de toute façon, par rapport à ces mutations et des mutations de cette ampleur-là, ça va secouer partout, et notamment en Allemagne, puisque ça remettrait en cause le cœur de l'industrie allemande.
En tout cas, il y a des choses qui sont en train de bouger, y compris dans l'esprit des Allemands, dans la culture allemande. Vous parlez de grosses voitures, etc. J'ai lu, par exemple, du côté des Allemands, chez les jeunes en tout cas, on ressentait de moins en moins le besoin de passer son permis de conduire. Et le taux de personnes qui ont leur permis de conduire est inférieur à celui qu'on trouve du côté de la France. Donc peut-être que là, culturellement, il y a des choses qui sont en train de changer du côté de l'Allemagne. Cédric Durand, Christian de Pertuis, réaction sur ce secteur automobile allemand qui est en crise et qui a des défis colossaux devant lui. Cédric Durand.
Oui, deux éléments, enfin même trois éléments. Le premier élément, c'est effectivement l'enjeu économique et social. L'Allemagne, c'est une machine à exporter massivement, une machine à exporter massivement qui bénéficie d'une subvention implicite qui est liée à l'architecture de la zone euro. Donc ça nous remet aussi en lien avec le point de départ sur les plans de relance. Si l'Allemagne s'est résolue à transiger sur le principe d'une forme de mutualisation budgétaire, de manière très limitée, c'est bien parce que son industrie a un besoin vital de cette structure européenne pour pouvoir être pérennisée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus précisément sur ce qu'a dit Guillaume Duval, que je partage très largement, je voudrais souligner deux éléments. Les enjeux en termes de consommation et sur le plan social. Les enjeux en termes de consommation, je ne sais pas comment le dire tellement autrement, mais il y a vraiment quelque chose d'absolument aberrant, hein, de se trouver dans une situation où on incite les gens, on subventionne une consommation que l'on sait négative d'un point de vue écologique. Et là, le point que vous évoquez, qui était discuté à l'instant sur le fait qu'il y a une partie de la population d'Allemagne qui n'accepte plus ça, est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Hein. Il y a des consommations qui sont aujourd'hui nécessaires pour faire tourner la machine économique, mais qui sont pas nécessaires du point de vue social, du point de vue du bien-être des consommateurs, on pourrait dire, et qui sont négatives du point de vue écologique. Donc là, il y a dans ces plans de relance quelque chose d'aberrant qu'il faut absolument souligner, mettre en débat. Et je pense que ça a été fait à l'instant de façon très très judicieuse. Évidemment, hein, s'il y a bien une raison pour ça, et la raison importante, c'est l'impact social de ces industries et des fragilités qu'elles connaissent, qui risquent de provoquer des dégâts sociaux tout à fait importants. Mais c'est important de distinguer les deux. Hein. Dès lors que maintenant on déplace la discussion sur non pas sur la relance de secteurs qui sont négatifs, mais sur les effets négatifs qu'ont la réduction de leur activité, là il faut entrer dans une nouvelle discussion. C'est quoi les garanties sociales qui sont apportées aux travailleurs pour permettre une transition écologique véritable? Quels sont les mécanismes de reconversion? Quels sont les métiers de demain? Quelle est la place d'une industrie, d'une politique industrielle qui ne soit pas orientée principalement vers la production, mais vers le soin apporté aux productions matérielles? Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'idée que c'est une économie de la récupération, du recyclage, mais aussi de la réparation, de l'amélioration. Hein, là, il y a une nouvelle industrie à inventer finalement, et de nouveaux jobs à inventer, mais qui doivent se constituer autour d'un pacte social. Et là, il faut que les syndicats puissent avoir leur mot à dire, qu'il y ait des négociations qui soient spécifiquement focalisées sur cette question des nouvelles activités industrielles, et non pas sauvegarder un modèle qui est épuisé, et le sauvegarder jusqu'à l'absurde, hein, en allant donc donner des primes pour des consommations qu'il s'agit de faire réduire.
Christian de Pertuis, risque de faillite et les ambitions environnementales, on voit que c'est très difficile de relancer ce secteur automobile allemand.
Non, mais il y a, si vous voulez, bon, d'abord, je pense que Effectivement, Guillaume a raison de dire que l'Allemagne, c'est une machine à exporter. Hein, donc, l'enjeu du marché intérieur est moins énorme pour l'Allemagne que pour la France. Hein, donc, l'enjeu des primes à l'intérieur est moins élevé aussi pour les constructeurs allemands. Je ne suis pas aussi convaincu que Guillaume Duval que l'Allemagne soit aussi en retard que ça sur les formes de mobilité nouvelles dans l'industrie de la voiture auto particulière, hein, notamment parce qu'elle a beaucoup investi sur l'hydrogène, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourrait devenir un support important, notamment pour les voyages à longue distance. Et Volkswagen me paraît largement au niveau, voire peut-être même en avance, que les constructeurs français sur l'intégration de la batterie à la voiture. Il faut savoir que le coût global de la batterie dans le coût de production d'une voiture à la sortie de la ligne de production, c'est 70%. Donc c'est... L'autre point qui me paraît essentiel, c'est ce qui vient d'être dit sur les reconversions. C'est-à-dire que il y a un problème de temps dans tout ça. On ne reconvertit pas un appareil industriel, surtout quand il a la dimension de l'Allemagne en matière automobile, en quelques mois. Or, l'enjeu social de... Moi, je préfère le terme de remise en route ou de redémarrage de l'économie que le terme de relance, qui effectivement, l'idée de relance nous ramène à une idée de retour à ce qui était avant, si vous voulez. Bon, c'est un enjeu de mois. Parce que on sait bien que le problème du chômage, le problème de la baisse du pouvoir d'achat, il est devant. Tout à l'heure, il a été dit que le confinement avait effectivement révélé de nouveaux attraits pour notamment le milieu naturel, la moins de mobilité, etc. Mais le confinement a également incroyablement creusé les inégalités sociales. Donc, je pense que l'enjeu social, il est à très court terme. Et l'enjeu de restructuration ne peut pas être réglé en quelques mois. Et donc ça, je crois que c'est un problème majeur du type de redémarrage de l'économie qu'on peut faire et du degré de vert qu'on peut y mettre. On ne peut pas aujourd'hui redémarrer une industrie automobile qui n'existe pas encore parce qu'elle n'a pas encore été construite.
Donc la transformation sera...
Je crois que c'est...
Ouais. La transformation sera très longue.
C'est la raison pour laquelle il faut des instruments puissants de régulation qui peuvent être soit des instruments économiques, soit des instruments plus quantitatifs, qui sont par exemple effectivement des normes globales par secteur qui pourraient s'imposer à sa politique du budget carbone. Et c'est ça qui est important.
Cédric Durand, vous êtes d'accord? Parce qu'au fond, ce qu'on dit là sur l'automobile, on pourrait le dire dans bien d'autres secteurs. Bien on n'a pas parlé de l'agriculture, par exemple, Cédric Durand. L'agriculture, c'est à peu près la même chose. La Covid a eu cet effet de nous recentrer sur ce que nous mangeons et on a vu les consommateurs se ruer, par exemple, sur le bio. Or, sur le bio, on sait bien qu'on est encore très en retard. Il y a des objectifs à hauteur de 25% des terres cultivées. On est là à moyenne, à un peu, tout petit peu plus de 7%. Donc, on voit bien qu'il va falloir mettre le paquet, mais que ça va être très compliqué parce que derrière, on a des agriculteurs qui disent attention, ces transformations que vous nous préconisez, elles sont beaucoup trop rapides, beaucoup trop violentes pour un secteur qui est déjà extrêmement précarisé, Cédric Durand. Donc, on voit que cette transformation, elle va être beaucoup plus longue que ce qu'on pourrait l'espérer, Cédric Durand.
Oui, là on est vraiment au cœur de la discussion et il me semble que le point de départ c'est de savoir ce qu'on fait de la crise. La crise en fait elle existe, on peut la mesurer, il y a des éléments, mais c'est aussi un événement social en fonction de la signification qu'on lui donne. Est-ce que c'est un moment fondateur ou est-ce que c'est pas un moment fondateur? Et le chemin pris par les plans de relance actuels n'est pas d'en faire un moment fondateur. Alors pourquoi c'est important de mettre l'accent sur la signification de cette crise? C'est parce que selon l'interprétation que l'on en a, on va pas avoir le même type de mécanismes de politique qui vont être mis en œuvre pour y répondre. Et ce qu'on discute à l'instant, c'est la question du changement structurel. Et la question du changement structurel, eh bien, c'est quelque chose que le marché ne peut pas faire. C'est quelque chose qu'il faut planifier. Il faut décider quelle va être la part de la population qui va passer du secteur automobile à un secteur qui aujourd'hui est moins intensif en main-d'œuvre et qui pourrait l'être davantage. L'agriculture écologique nécessite effectivement plus de main-d'œuvre. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui doit être mis sur la table en tant que tel avec des objectifs. objectifs qui ne sont pas des objectifs en termes de valeur, mais qui sont des objectifs en termes en nature, hein, nombre d'emplois, type d'émissions, volume de production. Et il faut aujourd'hui avoir un espace pour discuter de cette mutation structurelle. Et les plans de relance, s'ils étaient des plans de mutation, pourraient être l'espace où ça se fait, où les différents acteurs impliqués, politiques, syndicats, industriels, puissent dialoguer sur des objectifs. Et on sait qu'on a pu faire ça. Hein. Le bon parallèle, à mon avis, si on veut penser la transition écologique, c'est la reconstruction après-guerre. Hein. C'est vraiment ce moment où on a un certain nombre d'objectifs qui sont quantitatifs et on mobilise la population autour de ces objectifs-là. Alors effectivement, si la transition écologique, c'est de dire au travers de l'automobile, voilà, vous allez perdre votre job et les garanties sociales qui sont adossées à celle-ci, et puis c'est tout. Hein, ou alors on va vous former, mais sans avoir un socle de garantie sociale qui soit adossé, ça ne peut pas marcher. Politiquement, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des statuts sociaux qui correspondent à ce déplacement d'un secteur à un autre. Il faut donc qu'il y ait des compromis sociaux forts qui soient dans les secteurs qui doivent se constituer. Et la difficulté qu'on a, c'est que des secteurs comme l'automobile, comme la métallurgie, sont des secteurs où les syndicats ayant été très forts, les garanties sociales sont très importantes. Ce sont des bons jobs, ce sont des jobs qui permettent de se projeter dans le temps long. C'est pas le cas aujourd'hui dans les métiers de la transition écologique, et c'est pour ça que constituer un compromis social autour des métiers de la transition écologique est finalement une condition de viabilité sociale de cette transition de celle-ci. Donc voilà, si vous voulez, en deux mots, hein, pour répondre à cette question de temporalité, effectivement, l'instant d'aujourd'hui est celui de l'urgence sociale, mais le temps long est celui de la transformation structurelle, et si on sacrifie à l'urgence sociale le temps long, et on se trompe, on fait erreur. Et ce que j'ai peur, ce que je crains, ce que je vois même se dessine aujourd'hui, c'est qu'au nom de l'urgence sociale, on relance les vieux secteurs et on relance les vieilles structures productives sans finalement saisir l'opportunité de ce choc pour redéfinir un mode de développement.
Relancer les vieux secteurs, reprendre, si je puis dire, les bonnes vieilles mauvaises habitudes, c'est un peu ce qu'on va regarder tout de suite à propos du plastique, parce que là aussi, alors l'une des conséquences du confinement, ça a été de réduire l'activité, donc a priori réduire notre production et notre consommation de plastique, sauf qu'il y a aussi de nouveaux objets qui ont fait leur apparition, qui nécessitent du plastique, des visières, des vitres en plexiglas, des gants hygiéniques et des masques évidemment. Et tout cela, c'est des déchets en plus. Bonjour Laura Châtel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable de plaidoyer à Zéro Ouest France, qui est une association qui défend la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Alors, il nous reste assez peu de temps, donc je vais passer toutes les questions liées à la montée en puissance de ce plastique durant ce confinement. Je parlais de gants hygiéniques, de masques, etc., etc., qui, à la fin, se retrouvent toujours là où on sait, c'est-à-dire dans les mers. Donc, catastrophe, évidemment, pour la biodiversité. Mais il y a dans le plan d'Ursula von der Leyen une nouvelle taxe sur les plastiques non recyclés. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne a pris finalement conscience là de l'enjeu et a le bon réflexe, le bon outil pour enfin en finir avec cet usage terrible du plastique avec ses conséquences qu'on sait?
Alors, c'est pas un débat nouveau au sein de la Commission européenne, dans le sens où ça fait plusieurs années que la Commission européenne débat de l'opportunité de mettre en place une taxe sur le plastique, notamment sur le plastique vierge, parce que le problème du plastique, c'est qu'il est tellement peu cher, hein, il est basé notamment sur le coût du pétrole, et à partir du moment où les coûts du pétrole baissent, eh bien le plastique vierge devient donné quasiment, et donc ça entraîne évidemment une forme de surconsommation et d'usage complètement déraisonné et déraisonnable de cette matière. Mais c'est pas totalement nouveau. Moi, je pense que effectivement, l'approche taxe est un outil extrêmement important pour essayer de réduire la consommation de plastique et puis aussi potentiellement augmenter un petit peu le recyclage. C'est pas le seul, hein, et la Commission européenne d'ailleurs avait aussi passer tout simplement des mesures d'interdiction de certains produits plastiques à usage unique pour vraiment mettre un terme à certaines commercialisations de certains produits. Ça a déjà eu lieu il y a un an maintenant. Il y a une directive européenne qui avait été adoptée en la matière. Je pense que c'est une...
Qui n'est pas encore entrée en vigueur, Laura Châtel.
Non, qui entrera en vigueur, enfin ces interdictions entreront en vigueur en juillet 2021 en l'occurrence. Voilà, cette directive a été adoptée. Elle a en l'occurrence été contestée, hein, par les industriels du plastique à la faveur de la crise. Ils ont demandé des reports, voire des annulations de ces interdictions. pour l'instant, la Commission européenne tient bon et a priori, donc, ces interdictions entreront en vigueur dans un an maintenant.
Ça, c'est ce que vous souhaitez, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Parce que vous l'évoquez, les industriels sont là, il y a du lobbying qui est là, qui est très fort. Si on regarde au cas par cas, il y a aussi du côté de l'Italie où on avait une taxe sur le plastique qui aurait dû être en vigueur là le 1er juin prochain, c'est-à-dire aujourd'hui, et qui finalement va être retardée. Est-ce que vous craignez, Laura Chatel, qu'on ait comme ça un grand mouvement de retard sur cette gestion du plastique?
Oui, c'est évidemment une crainte. Que le problème, en fait, de toutes ces réglementations qui visaient à réduire le plastique, c'est qu'elles sont toutes assez récentes. C'est ça qui est assez dramatique et qui est le gros désavantage, c'est que du coup, forcément, c'est les réglementations environnementales qui sont les plus attaquées par les lobbies, en l'occurrence le lobby du plastique, parce qu'elles n'avaient pas encore, elles n'étaient pas encore parfois entrées en vigueur ou elles n'avaient pas encore donné leurs effets, ce qui fait qu'elles sont contestées. Donc c'est le cas de la taxe en Italie qui avait été décidée il y a tout juste quelques mois, qui a donc été reportée. C'est le cas de la loi anti-gaspillage en France qui venait d'entrer en vigueur, hein, elle est entrée en vigueur en février, donc qui a été aussi attaquée. Donc évidemment il y a un risque. On a vu que dans certains États il y avait des reculs. Hein, ce qui se passe aux États-Unis de ce point de vue-là est assez préoccupant. Toutes les interdictions de taxes plastiques quasiment ont été annulées. Pour l'instant, la France et la Commission européenne tiennent bon. Les réponses des gouvernements sont assez fermes, donc j'espère que ça restera comme ça.
Et est-ce qu'il y a des choses à attendre, Laura Chatel, du côté de l'économie circulaire? Parce que, évidemment, dans un monde idéal, on utiliserait une certaine quantité de plastique qu'on recyclerait à l'infini grâce à des systèmes de tri et de collecte sans faille, et on aurait là une économie parfaitement circulaire. On se demande si cet objectif est atteignable, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des avancées que l'on peut attendre en la matière?
Oui, bien sûr. Alors, moi, j'entends l'économie circulaire peut-être un peu différemment d'une économie qui fonctionnerait simplement avec du recyclage. En fait, l'économie circulaire, c'est avant tout essayer de réduire la consommation de ressources, de matières, et donc plutôt éviter l'usage unique et aller vers des modèles de logistique, de distribution, qui permettent de réutiliser les objets à partir du moment où ils ont été conçus, de les réutiliser un maximum de fois. Et là, il y a beaucoup de potentiel.
Il y a eu des éléments là qui ont été avancés par la Commission. Alors, peut-être pas dans ce plan actuel, mais dans le premier plan avancé par Ursula von der Leyen. Il y a des éléments là-dessus?
Oui, bien sûr. Dans le plan, par exemple, l'économie circulaire de la Commission européenne, la Commission européenne met en avant le fait que, typiquement dans le domaine de la restauration, il va falloir aller sur des modèles qui fonctionnent avec des emballages réutilisables un maximum, parce que c'est un secteur émergent, hein, la restauration, y compris la vente à emporter, la restauration nomade, qui fonctionne aujourd'hui, qui se développe sur une base de tout jetable. Et là, il y a des vraies volontés politiques, effectivement, d'orienter le secteur plutôt vers des systèmes réutilisables. Ça suppose l'investissement dans des infrastructures, hein, typiquement réutiliser des emballages, ça suppose d'investir, de construire des laveuses industrielles qui vont pouvoir laver ces emballages. C'est un outil industriel qui a complètement disparu en France. Il y a des régions entières qui n'ont plus de laveuses d'emballage, qui existent encore en Allemagne, parce que l'Allemagne a réussi à maintenir un système de consigne. Ça fait partie des secteurs dans lesquels on peut investir à l'occasion de ce plan de relance.
Merci beaucoup, Laura Chatel. Je rappelle que vous êtes auteure, co-autrice avec Flore Berlingen et Thibaut Turchet de Territoire Zéro Ouest, qui est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci infiniment à vous. Neighbors think he's helpful and he's sweet, 'cause he never swears and he always shakes you by the hand, but no one knows he really is a plastic man. He's got a plastic heart. Plastic Man, les Kings bien sûr, choisi par Benjamin U. Merci beaucoup à nos invités Christian de Pertuis et Cédric Durand de nous avoir accompagnés pour essayer de repenser notre rapport à la nature. C'est notre série cette semaine dans Culture Monde. On parlait aujourd'hui de la relance. Rendez-vous demain 11h.